Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir une page de notre Bible. Alors ça sera dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset à partir du verset 1er. Gardez la flamme allumée, gardez le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes et véritablement qu'il puisse brûler dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi brûler autour de nous. Voilà, nous allons faire la lecture que j'ai donc entamée, et c'est dans la lettre à l'église d'Éphèse que nous ouvrons cette page. Chapitre 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous avons commencé notre lecture à travers cette affirmation, ce témoignage donné par Dieu, par son Esprit, quand il s'adresse aux chrétiens de l'église d'Éphèse et qu'il dit ceci, « Je connais tes œuvres ». Je voudrais simplement rappeler ce lieu commun, c'est que le Seigneur sonde et il connaît. Il connaît tout, tout ce qui se fait en communauté, c'est-à-dire dans l'Église, ou les actions isolées. Et il est bien spécifié, il est question du travail de ces chrétiens d'Éphèse, de ton labeur, qui imagine naturellement l'effort et l'application de l'Église dans ses responsabilités, implications et peines pour la défense et la propagation de l'Évangile. Il est souligné aussi une autre chose qui est importante, c'est que Dieu remarque chez ses croyants ta patience, leur patience en rapport avec, bien naturellement, les souffrances induites pour le nom de Jésus. Que de souffrances dans l'Église première, de persécutions, de tribulations, et cela est rappelé à ces chrétiens. Tu ne peux, ainsi est ajouté, tu ne peux supporter les méchants, c'est-à-dire ceux de l'extérieur, les gens qui ne croient pas, les non-croyants, les incrédules, mais également il est souligné les faux frères qui se seraient ou qui se sont infiltrés, et cette fausse tolérance dans leur maintien dans l'Église qui nie la vérité et la discipline. Les méchants doivent être repris et exhortés à changer. Il est bien question qu'ils sont en effet mis en garde de devoir changer, mais de ne pas rester dans un comportement qui serait eh bien un mauvais témoignage pour la communauté chrétienne d'Éphèse. Nous avons un exemple. Ceux qui se disent apôtres, qui s'imaginent être eh bien là des envoyés de Dieu, les docteurs judaïsants, c'est-à-dire les faux enseignants, qui se sont eh bien là mis au milieu des véritables enfants de Dieu et qui répandent leurs théories douteuses, leurs enseignements, leurs faux évangiles en désaccord avec ce que Jésus nous a donc enseigné, l'enseignement évangélique. Néanmoins, À Éphèse, il y a une qualité, c'est-à-dire la vigilance. Les fauteurs de troubles étaient éprouvés et réprouvés. Et naturellement, eh bien, cela est bien signalé à ces chrétiens fidèles, tu les as trouvés menteurs. Et ça, c'est une affaire de perspicacité et une affaire de discernement. Mais pour avoir cette perspicacité, il faut bien connaître ce que Jésus nous a enseigné et rester sur ce que Jésus nous a dit. Alors tu as de la persévérance, tu as souffert et tu ne t'es pas lassé. C'est un bel hommage à la fidélité, au zèle, pour le témoignage et pour le maintien de la doctrine dans son intégrité. Les Éphésiens étaient des gens qui, quelque part, étaient très scrupuleux par rapport à ce qui leur avait été dit au commencement, le message de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ. Et ça, c'était quelque chose qui était primordial, comme naturellement encore, ça doit rester une priorité pour les chrétiens que nous sommes au XXIe siècle. Nous avons le verset 4 qui est très intéressant et qui nous dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà, il y a quelque chose qui est souligné. Le Seigneur, en parlant ainsi, ne veut rien cacher, mais c'est quelque chose qui est important. C'est que tu as servi ton Dieu, tu as été fidèle, tu as persévéré, tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup de choses par ta patience, mais tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette intime ardeur qui rend capable au sacrifice de soi-même, dont le mobile est l'inspiration et le fruit de la gratitude envers le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Les Éphésiens n'avaient certainement pas oublié les grâces qu'ils avaient sollicitées au ciel et que Dieu leur avait données en abondance, dans les combats, dans les bénédictions, dans toutes sortes de choses. Ce déficit d'abandon peut s'entendre par un relâchement, voire peut-être la négligence dans le temps qui passe, la lassitude du temps, et qui marque de renouvellement d'une foi vivante, une foi vibrante. C'est-à-dire que quelque part, il s'était fatigué. C'est une forme de refroidissement de l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour fraternel, parce que les luttes et frictions inévitables dans la communauté des chrétiens, hier comme aujourd'hui, c'est-à-dire les dissensions, les mésententes et autres situations conflictuelles, entament la ferveur et l'enthousiasme que génère une bonne communion dans l'unité. Je crois qu'il y a deux pôles particuliers qui doivent être retenus dans toute démarche et tout service pour Dieu. C'est tout simplement la vérité et l'unité. Ne l'oublions jamais. S'il y a baisse d'intensité, un déclin progressif, un déclin silencieux s'installe et l'amour diminue. C'est tout à fait logique. C'est comme beaucoup d'autres choses qui ont besoin d'être renouvelées en permanence, s'exprimer pour vivre. Or, la communion fraternelle est essentielle à l'avancement de l'Église. Certes, les œuvres demeurent et continuent, comme c'était constaté dans l'Église des Éphésiens, mais tout cela n'était pas forcément suffisant. Il faut qu'il y ait les actes, il faut qu'il y ait l'expression, il faut qu'il y ait l'activité, mais il faut qu'il y ait la motivation, parce que si la motivation est perdue, alors on peut faire les choses machinalement et tout cela n'a plus de sens. Mais la priorité n'était plus l'esprit d'amour. Et ça, c'est important parce que on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, on peut faire beaucoup de choses pour ceux qui partagent la même foi que nous, mais si véritablement cet esprit d'amour a disparu, parce que cet esprit d'amour est le seul qui puisse vivifier en fraîcheur et en ardeur, en ardente charité. Les œuvres, nous dit la Bible, sans amour sont des œuvres mortes. Nous allons voir le verset 5 où il est dit ceci. Alors Dieu reprend les chrétiens et leur dit « Mais souviens-toi ». Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a des choses qui sont intéressantes et je voudrais relever d'abord le souvenir de ce que c'était hier, de ce que je suis devenu aujourd'hui, de pouvoir faire marche arrière et de pouvoir prendre en considération ce que Dieu me dit et de vouloir changer, de les pratiquer, ces œuvres, parce que ça ne sert à rien de dire, eh bien, je te demande pardon, Seigneur, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, mais je ne change rien, donc il est question, eh bien là, de pratiquer les premières œuvres et au risque, eh bien, que Dieu enlève notre lumière, c'est-à-dire notre chandelier, et le donne à d'autres. L'abandon de ce premier amour est une chute, une sorte de dégradation, et pour se relever d'un état d'abaissement, il faut la repentance, c'est-à-dire une prise de conscience que nous regrettons, que non pas seulement du regret ou du remords, mais véritablement demander l'aide de Dieu pour qu'il nous aide à changer et ainsi eh bien devenir de nouvelles personnes, reconnaître l'état et de nous remémorer de cette situation qui était la nôtre auparavant, qui n'est plus aujourd'hui, et reconnaître finalement ce que nous sommes actuellement, et ce déficit, désirer sincèrement repartir, revenir aux premiers hommes vitales. À défaut, Dieu dit, j'ôterai le chandelier, c'est-à-dire là où tu es appelé à briller autour de toi, le témoignage vivant que tu as rendu, que tu ne rends plus, et qui est véritablement, eh bien là, un moyen de communiquer aux autres pour qu'ils soient sauvés par la foi, et ça c'est notre responsabilité. Quand l'amour vrai disparaît, ou peut-être on peut le dire d'une autre manière, quand l'amour vrai s'obscurcit, la lumière, la clarté, le rayonnement se voile et finit par s'éteindre. Et c'est bien le danger de la vie chrétienne, c'est bien le danger des communautés chrétiennes, c'est bien le danger des plus belles entreprises à leur début, mais il faut que ça continue. Ne pas mépriser les faibles commencements, mais de pouvoir eh bien, aller de progrès en progrès, comme nous dit l'Écriture sainte. Il ne reste alors à ce moment-là que des outres vides, vestiges et formes mortes du christianisme. Et c'est bien justement ce qui est là, eh bien, véritablement la difficulté. Et nous voulons véritablement penser que des outres, elles sont faites pour être remplies d'eau. Et avec cette eau, eh bien, il y a là la capacité, la possibilité de désaltérer ceux qui ont soif. Le verset 7 nous dit simplement, et je voudrais relire le passage, c'est le dernier verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parce que il y a une récompense, une formidable récompense à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui saura garder le feu sacré du Saint-Esprit dont il a été revêtu, dont Dieu, eh bien, l'a recouvert. Le feu sacré, la flamme sacrée, une merveilleuse promesse est donnée. Souvenons-nous de l'arbre de vie dans Genèse, chapitre 2 et verset 9, où il nous est dit que Dieu planta des arbres, il créa un jardin et il y mit l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie, la plénitude de la vie a son unique source, eh bien, dans l'intime communion de l'homme avec Dieu, qui est l'essentiel de la véritable vie. Ranime le don de Dieu, nous dit Paul, ou dit Paul à Timothée, parce que c'est véritablement essentiel. Il peut y avoir une apparence, il peut y avoir une piété, il peut y avoir une foi qui peut s'exprimer comme nous l'avons vu, parce que les Éphésiens ne manquaient pas d'expression d'une manière ou d'une autre pour montrer qu'ils étaient chrétiens, mais il faut qu'il y ait eh bien là, l'essentiel, le souffle à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense qu'il n'est pas superflu de rappeler, eh bien, la promesse que Dieu nous a laissée à travers le nom de Jésus-Christ lorsque nous l'invoquons et que nous croyons à sa promesse quand il est question, eh bien, que Jésus nous fait, là, c'est ce don de l'Esprit-Saint. Si quelqu'un sent ou si quelqu'un ressent son déficit spirituel, eh bien, il est promis, à ce moment-là, il est interpellé pour demander à Dieu qu'il lui vienne en aide et qu'il renouvelle cette énergie et cette source. Et nous savons que, à ce moment-là, eh bien, il est promis, le renouvellement nécessaire pour continuer et aller encore plus loin et mieux. Il y a un beau texte, et c'est sur ce texte-là que j'aimerais simplement conclure, parce que il fait partie, eh bien là, des choses qui sont enseignées par Jésus. Il nous est simplement dit au chapitre 8 et au verset que je retrouve ce passage, quand il est question, alors que je prenne, voilà, ce passage où il est question que Dieu, eh bien là, créera en nous une source d'eau vive, quelque chose qui, eh bien là, est puissant, quelque chose qui est extraordinaire et qui nous amène, eh bien, à vivre là des choses totalement puissantes par la grâce de Dieu. Alors, lassés, fatigués, épuisés, continuons à entretenir le dépôt, le bon dépôt de la foi, prioritairement à toute autre chose. Aimer Dieu, aimer les chrétiens, aimer nos semblables, eh bien, c'est essentiel. Alors, que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse, et je voudrais justement, parce que je viens de retrouver ce texte de promesse, où à Jérusalem, un jour de fête, Jésus dira, et ça c'est écrit tout simplement, « Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, nous avons parlé d'eau tout à l'heure, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de l'intérieur de lui-même, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. » Nous avons dans ce passage quelque chose de formidable, parce que Jésus fait appel dans le renouvellement nécessaire pour garder la flamme allumée. Et même si nous avons des années de vie chrétienne, si nous avons fait déjà beaucoup de choses, si nous avons servi et fidèlement, patiemment le Seigneur, eh bien, si quelqu'un a soif en cours de route, le long de sa route, le long de sa vie, eh bien, qu'il boive, parce que c'est gratuit tout cela. Et celui qui croit en moi, et ça c'est véritablement le fondement, des fleuves, c'est pas seulement un filet d'eau, mais des fleuves d'eau vive couleront de sa vie intérieure. Et nous savons que Jésus, eh bien, a accompli à la Pentecôte cette réalisation. Donc, aimer Dieu, aimer les chrétiens, aimer nos semblables, quels qu'ils soient, croyants ou non, peu importe, parce que nous pouvons conclure ainsi, soyons fermes, nous dit Paul dans Corinthiens chapitre 15, soyons fermes, soyons inébranlables, travaillant de mieux en mieux, car ceux qui se confient, et je passe dans un autre passage de la Bible dans l'Ancien Testament, car ceux qui se confient en l'Éternel, c'est la foi, renouvellent leur force davantage, la force de leur amour pour le service de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, peut-être pouvons-nous nous sentir à quelques moments de notre vie chrétienne, eh bien, là, fatigués, lassés, déçus par toutes sortes de choses. Mais nous avons cette promesse à travers ce texte que nous avons là médité ce matin, eh bien, la proposition que Dieu est près de nous, que nous pouvons l'invoquer, que nous pouvons lui demander, parce que la véritable force, c'est lui. Et nous avons naturellement le souvenir de ce passage dans le livre du prophète Ésaïe, peu importe, mais en tous les cas, si je me souviens, eh bien, il nous est dit que là, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je crois que si nous avons besoin d'un renouvellement, c'est pas seulement de nos forces physiques, nécessaire, c'est vrai. Ce n'est pas seulement là la ténacité ou la pugnacité de notre caractère moral, mais c'est aussi notre vie spirituelle. Et la vie spirituelle, eh bien, c'est la dimension de cette possibilité que Dieu nous donne par lui-même, en lui-même et de lui-même. Alors que Dieu nous bénisse et que nous puissions nous réjouir de ce que Dieu n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu nous mettre dans une situation là de jugement, mais au contraire, il nous dit tout simplement, eh bien, si tu es fatigué, si tu es, eh bien, là, lassé, eh bien, moi, je te donne maintenant tout le renouvellement dont tu as besoin, mais garde ta flamme, garde le feu allumé en toi. Alors, merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.